Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Des bouchers charcutiers qui ont baissé le rideau aujourd'hui pour aller manifester près de l'Assemblée nationale. Manifestation en ce moment même. Certains sont pris à la gorge financièrement par les augmentations des prix de l'énergie. On est sur place avec Thibaut Hue et on sera en direct à midi 20 avec Sébastien Rambaud qui participe à cette manifestation. Il représente les bouchers du Maine-et-Loire. Les députés en ont marre des séances de nuit et des horaires à rallonge. Certains sont épuisés. Une réunion s'est tenue ce matin, Alexandre Chauveau, pour les dernières informations. Et puis à midi et demi, le député Philippe Ballard, porte-parole du RN, sera en direct avec nous. Et j'aimerais vous entendre, tiens, au 39-21, vous appelez le 39-21, vous nous direz si vous comprenez ou pas la colère des députés. Oui au compost, mais attention à ne pas mettre du plastique dans votre compost. C'est la recommandation de l'ANSES sur laquelle on reviendra avec Yasmina Katou. On ira en Chine où les protestations contre la politique zéro Covid prennent de l'ampleur. Témoignage du correspondant d'Europe 1, Sébastien Lebelzig, sur place. Jacques Vendroux, champion du monde, ou presque. Jacques qui suit la Coupe du Monde pour Europe 1 et qui a été décoré ce matin par la FIFA, car c'est actuellement la 15e Coupe du Monde que Jacques Vendroux couvre. Il sera avec nous à 12h45. Et avec vous, vous appelez le 39-21 pour échanger avec Jacques. Et puis là, la tendance météo, Anissa Haddadi, avec un retour au calme progressif.
Mais c'est vrai que pour l'instant, on en a fini avec le balai des perturbations. Donc on a beaucoup moins de pluie aujourd'hui. On a toujours deux zones pluvieuses le long de la façade est et sur les Pyrénées. Et surtout, le retour du soleil par l'ouest aujourd'hui avec des températures de saison.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. De nombreuses boucheries et charcuteries artisanales en danger de mort à cause de la flambée des prix de l'énergie. C'est l'alerte lancée par le principal syndicat de la profession. La situation est en tout cas assez grave pour organiser une manifestation. La première dans le secteur de la boucherie-charcuterie depuis 20 ans. Depuis 20 ans et la crise de la vache folle. Thibaut Hue en direct. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Cette manifestation, elle a lieu près de l'Assemblée nationale, hein ?
Oui, tout à fait. C'est un rassemblement historique. 200 bouchers charcutiers qui viennent de partout en France. Pour beaucoup, c'est la première manifestation. Alors, vous l'entendez derrière moi, c'est très calme. Quelques pancartes sont brandies discrètement où on peut lire par exemple « L'électricité va nous achever ». Des professionnels assommés par la hausse des prix de l'énergie, comme Michael, il tient une boucherie au Mans.
Concrètement, moi je paye 35 000 euros d'énergie par an. Et là, on m'annonce des nouveaux contrats d'énergie à 100 000 euros. Quoi. Donc la différence, on ne pourra pas la faire, c'est pas possible. Donc après, la solution, c'est soit on augmente tous les prix beaucoup, soit on ferme la boutique.
Et pour éviter des dépôts de bilan, tous attendent une réaction rapide de la part du gouvernement. Jean-François Guillard, président de la Confédération Boucherie Charcuterie Traiteur, demande un élargissement du bouclier tarifaire pour la profession.
Aujourd'hui, on est bloqué à 36 kW à 10 salariés. Si vous avez 11 salariés, vous ne rentrez plus dans le cadre. Si vous avez 40 kW, vous ne rentrez plus dans le cadre. Donc c'est très restrictif. Ce bouclier aussi nous enferme. Une entreprise qui veut embaucher ne pourra pas embaucher parce qu'elle va voir ses prix de l'énergie bondir.
Alors une délégation de 6 bouchers charcutiers est reçue en ce moment par la commission économie de l'Assemblée nationale et demain ils porteront leur réclamation auprès d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises.
Merci Thibaut. Thibaut Hue en direct de l'Assemblée nationale, Sébastien Rambaud qui représente les bouchers charcutiers du Maine-et-Loire en direct avec nous à midi 20. Vous appelez bien sûr le 39-21 si vous souhaitez commenter ou témoigner. Les psychiatres hospitaliers également mobilisés aujourd'hui, ils dénoncent un abandon du secteur par les pouvoirs publics. Abandon caractérisé, selon eux, par un manque de lits ainsi qu'un sous-effectif. Des rassemblements sont prévus devant plusieurs agences régionales de santé. À Paris, une manifestation a lieu en ce moment même devant le ministère de la Santé. Depuis hier matin, les cheminées de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle fonctionnent à nouveau, très émettrices de CO2. Elles devaient être définitivement arrêtées fin mars. Mais face aux difficultés d'approvisionnement en énergie que la France connaît ces derniers mois, le gouvernement a fait le choix de prolonger sa durée de vie. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Ce redémarrage d'urgence est-il de nature à limiter les risques de coupure d'électricité cet hiver, le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold?
Oui, vous entendez beaucoup dire en ce moment que les Français consomment moins d'électricité. C'est vrai si on compare à la moyenne des années 2014-2019. Malgré tout, ces deux dernières semaines, la consommation électrique en France a augmenté de 15% parce que les températures ont baissé et Saint-Avold arrive là pour fournir en électricité 600 000 foyers cet hiver. Mais ça ne suffira pas, comme le rappelle l'économiste Jacques Percebois.
Ce n'est pas seulement la centrale de Saint-Avold qui va nous permettre de passer l'hiver. Ça représentera même pas 1% de la production d'électricité française.
Si Saint-Avold redémarre, c'est aussi parce que le nucléaire n'est disponible qu'à 50%. Alors pour compenser, la France importe et pollue. 1 mégawattheure d'électricité à base de charbon, c'est une tonne de CO2 émise. Mais pour Jacques Percebois, à nouveau, en l'état, ça ne change rien.
De toute façon, notre situation actuelle fait qu'on importe de l'électricité d'Allemagne, de Belgique, et cette électricité est très largement carbonée.
Saint-Avold n'est pas la seule centrale à charbon à tourner en France. Il y a celle de Cordemais dans l'Ouest, dans les Pays de la Loire. Et Cordemais, comme Saint-Avold, seront indispensables en France, au moins jusqu'en 2024.
Baptiste Morin, merci beaucoup Baptiste du service économie d'Europe 1. Et puis, écoutez ce que disait Olivier Véran il y a quelques instants, porte-parole du gouvernement. Il se pourrait que certains jours de grand froid, la demande et la production d'électricité ne soient pas alignées. En clair, qu'il y ait des coupures. Hein.
Exactement, c'est une façon très politique de dire... Ouais. Il y aurait des coupures.
Voilà, il se pourrait que certains jours de grand froid, la demande et la production ne soient pas alignées. Voilà, en clair, il manquera d'électricité s'il y a des jours de grand froid en France. Merci beaucoup, Baptiste. Depuis que le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, la présence d'un maximum d'élus de tous bords est devenue cruciale pour faire adopter les textes. Résultat, les séances dans l'hémicycle s'éternisent. Il faut parfois siéger des nuits entières. Une réunion a eu lieu au Palais Bourbon pour discuter de ce rythme de travail devenu difficilement soutenable par certains élus. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Quelles solutions sont envisagées pour alléger l'emploi du temps des députés ?
Alors la plupart des députés ont demandé plusieurs choses. D'abord de ne plus siéger les lundis et vendredis pour leur permettre de retourner en circonscription à l'écoute de leurs concitoyens. Et puis deuxièmement, ce sont les séances de nuit, parfois au-delà de minuit, qui pèsent sur l'état physique et mental des députés, ainsi que sur la qualité de leurs débats, comme l'explique Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.
Pendant les séances de nuit, les journalistes ne sont pas là, les citoyens ne peuvent pas regarder le débat en direct. Ce n'est pas de bonnes conditions de la démocratie. D'ailleurs, vous savez bien que souvent les textes, dans ce cas-là, sont accélérés, que les amendements ne sont même plus défendus. Bref, c'est n'importe quoi, ça donne une mauvaise image de la démocratie. Il faut qu'on prenne le temps dans des heures normales. Alors après, on peut travailler jusqu'à 1h, 2h du matin, ça reste des conditions acceptables. Mais il ne faut pas finir un texte à 6h du matin, c'est n'importe quoi.
Alors Yael Braun-Pivet n'a pas pris de décision ce matin, elle a simplement écouté les différents présidents de groupe et devrait revenir vers eux prochainement avec des propositions concrètes. Mais avant que celles-ci ne soient adoptées, elles devront être soutenues par la totalité des 10 groupes parlementaires, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance au vu des clivages entre les différents groupes.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 en direct de l'Assemblée nationale. Dernier préparatif pour Emmanuel Macron avant de s'envoler ce soir pour les États-Unis. Une visite d'État qui va emmener le président de la République à Washington où il sera reçu par Joe Biden. Au cœur des échanges, la guerre en Ukraine, mais aussi l'épineux sujet du protectionnisme économique des Américains. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Est-ce que vous faites partie du tiers des Français qui a adopté le compostage? Si oui, cette alerte de l'ANSES va vous interpeller. Les déchets plastiques, comme les sacs plastiques donc dans lesquels on met les peaux de bananes, les épluchures de pommes de terre, même les sacs qualifiés de biodégradables n'ont pas leur place dans les composteurs. Et pour cause, leur dégradation totale n'est pas garantie. Et ça peut, Yasmine Akatou, bonjour.
Bonjour à tous.
Ça peut in fine être dangereux pour l'environnement ainsi que pour la santé?
Oui, retrouver un bout de gobelet en plastique dans votre salade, eh bien... C'est peu reluisant, mais c'est ce qui risque de vous arriver si vous compostez vos déchets en plastique, pourtant dit biodégradable, et que vous utilisez le compost pour votre potager. La réglementation actuelle sur le compostage ne permet pas une dégradation totale, explique Aurélie Mathieu, coordinatrice du rapport de l'ANSES.
Selon les normes actuelles, les matières plastiques compostables, elles se dégradent à plus de 90% dans un délai maximum de 6 à 12 mois, ce qui veut dire qu'il reste 10% qui pourraient ne pas être dégradés. Et ces 10%-là, ça peut entraîner des effets pour la santé des personnes.
Et les effets nocifs des microplastiques sur la santé restent pour l'heure inconnus. Alors par précaution, il est déconseillé de composter les plastiques, même biodégradables.
L'ANSES recommande donc de mettre ces matières plastiques dans la poubelle jaune, ce qui permettra d'avoir ensuite un traitement de ces matières plastiques usagées dans une filière industrielle.
pour le recyclage des plastiques, l'ANSES préconise des critères plus stricts tels que l'absence de perturbateurs endocriniens ou de substances cancérogènes dans les matières plastiques.
Yasmina Katou, merci Yasmina. On est peut-être à quelques heures d'une véritable consécration pour notre pays. La baguette pourrait être intégrée à la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO examine cette candidature comme celle de la harissa tunisienne, des fêtes foraines françaises et belges ou encore du raï algérien. Les résultats seront dévoilés cet après-midi. Voilà, la harissa, les fêtes foraines, le raï et la baguette. Résultat, donc cet après-midi. Il est midi 10, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on ira en Chine. La pression ne redescend pas sur le gouvernement et les autorités chinoises. Il y a eu de nouveaux rassemblements contre la politique. Zéro Covid, restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe midi. Romain des Arbres.
En Chine, après plusieurs jours de manifestations inédites contre la politique zéro Covid en vigueur depuis le début de la pandémie, de nouveaux rassemblements devaient avoir lieu aujourd'hui. Mais la forte présence policière a dissuadé les contestataires. Le calme est revenu dans les rues, mais pas dans les esprits. Sébastien Lebelzik est correspondant d'Europe 1 à Pékin. Il nous dit que la pression n'est pas redescendue dans l'Empire du Milieu. Il nous dit également, écoutez, que les Occidentaux s'attendent à des confinements massifs et de longue durée en Chine, ce qui pourrait être une façon pour le pouvoir chinois d'étouffer les contestations. Écoutez.
Oui, l'ambassade des États-Unis à Pékin a envoyé une alerte il y a quelques heures à peine pour demander à ses concitoyens de faire des provisions pour au moins 14 jours et de se préparer donc à un possible confinement généralisé de Pékin. Rien de tel pour l'instant du côté de l'ambassade de France, même si des réunions de sécurité sont organisées. L'ambassade qui nous a fait suivre un numéro d'urgence pour ceux qui sont effectivement en grande difficulté en Chine en raison des confinements qui se multiplient. C'est peut-être ça d'ailleurs, la réponse du gouvernement chinois aux manifestations de dimanche dans le pays, fermer la ville, fermer les universités pour empêcher tout rassemblement sous prétexte donc d'une reprise épidémique. Les manifestations qui se sont poursuivies encore hier contre les confinements et pour la liberté et la démocratie, mais qui aujourd'hui semblent très limitées en raison aussi de la forte présence policière dans tout le pays. La police qui contrôle les identités dans les rues, qui fouille les portables à la recherche de vidéos de manifestations et pour vérifier que l'on n'utilise pas des messageries cryptées et interdites en Chine comme Telegram. Selon nos informations, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées.
Sébastien Lebelzik, donc en Chine pour Europe 1, et on a appris ce matin que l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a été convoqué après l'arrestation d'un journaliste de la BBC à Shanghai. Voilà, c'est une source gouvernementale britannique qui donne cette information à mes confrères de l'agence France Presse. La Corse se souvient, évidemment, et on se souvient tous, de ce tragique 18 août 2022, le 18 août dernier. Ce jour-là, une tempête dévastatrice avait fait 5 morts et des dizaines de blessés. Météo France n'avait pas pris la mesure du phénomène en amont. L'île de Beauté n'était placée qu'en vigilance jaune, quelques minutes avant le drame. La vigilance jaune, c'est évidemment pas le niveau maximum. Cet épisode a profondément marqué l'agence météorologique. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour.
À tel point que le système de vigilance évolue pour devenir plus efficace. Expliquez-nous.
Oui, les cartes de vigilance qui existent depuis 2001 évoluent. Vous savez, lorsque les départements sont coloriés, donc en vert, en jaune, en orange ou en rouge, lors de vents violents, d'orages, d'inondations, de canicules, eh bien Météo France s'engage à publier deux cartes, à la fois pour le jour même, mais aussi pour le lendemain, lorsqu'un événement météorologique extrême menace l'Hexagone. C'est pour mieux anticiper et mieux protéger les Français, après la catastrophe corse évidemment, mais aussi pour s'adapter au réchauffement climatique en développant une nouvelle culture du risque, puisque ce genre de phénomènes vont être de plus en plus fréquents et plus intenses. D'autres précisions seront apportées par ces cartes, les conséquences possibles comme les coupures d'électricité et aussi les recommandations sur ce qu'il faut faire comme évacuer les lieux pour les risques de submersion des côtes par vagues et les avalanches. Un zonage plus précis enfin que celui du département sera proposé.
Merci beaucoup Louise Salé. La Coupe du Monde, Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde au Qatar. Vous le savez, 4 matchs à suivre aujourd'hui. Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar à 16h. Et ce soir en intégralité dans Europe 1 Sport dès 20h, les États-Unis contre l'Iran et le Pays de Galles face à l'Angleterre. Karim Benzema de retour dans le groupe France au Qatar, on entend cette rumeur. Depuis plusieurs jours, et oui, l'attaquant se serait remis de sa blessure qu'il avait poussé à déclarer forfait avant le Mondial. Je vous laisse imaginer les choses, je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. Réponse sèche du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en conférence de presse ce matin, ça ne lui a pas plu visiblement la question. Et puis comme tous les jours, dans Europe Midi, place à l'analyse de notre consultante, la consultante d'Europe 1 et internationale française, Wendy Renard. Et à la veille du dernier match de groupe de l'équipe de France face à la Tunisie, Jacques Vendroux lui a demandé s'il était indispensable de faire tourner l'effectif dans un contexte où la qualification pour les huitièmes de finale est déjà acquise pour les Bleus.
Indispensable, en tout cas, il est dans ce confort. Il a le choix, puisque nous sommes déjà qualifiés pour les huitièmes. Et je pense que ça permettra aux sélectionneurs de pouvoir donner du temps de jeu aussi à d'autres. Kylian, le connaissant, ben, il va vouloir sûrement enchaîner. Après, je pense qu'il y a des postes un peu comme Théo Hernandez où derrière, il n'y a plus trop d'options. Donc ouais, il faudrait peut-être le protéger. Je pense que même Adrien Rabiot, Tchouaméni aussi devant la défense. Donc je pense que par exemple, pour un Varane, il a besoin d'enchaîner. Donc lui, je pense qu'il enchaînera ce deuxième match. Il faut quand même garder une certaine colonne vertébrale, ossature. Et après, ben, donner du temps de jeu, pourquoi pas à Coman qui commence, même à Thuram directement. Encore une fois, le sélectionneur a cette chance de pouvoir le faire, donc ce serait bien.
Voilà Wendy Renard interrogé par Jacques Vendroux. Jacques qui sera en direct avec nous à 1h moins le quart à 12h45, qui va nous raconter sa matinée. Il a reçu un prix, Jacques Vendroux, ce matin pour sa 15e couverture du Mondial. C'est le 15e Mondial que Jacques Vendroux couvre. Voilà, il a été récompensé par la FIFA. Il sera avec nous. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le 39-21. Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Quelle est la tendance à Paris aujourd'hui?
Alors, ça reste très fragile, mais le CAC 40 est en petite hausse, plus 0,1%, 6672 points. Hier, les marchés se sont beaucoup inquiétés de la situation en Chine, la hausse des cas de Covid et surtout les mouvements sociaux. Ça va un peu mieux du côté des marchés en Asie. La bourse de Hong Kong a par exemple rebondi de 5% ce matin. Et puis, on a aussi les cours du pétrole qui repartent à la hausse après avoir touché un plus bas de près de 1 an hier. Et à Paris, le géant Total Energy en profite en hausse de 1%. Les marchés européens sont partagés ce midi, plus 0,1% pour Francfort, plus 0,7% pour Londres, mais moins 0,2% pour Madrid et pour Milan. Le CAC 40 est donc en petite hausse ce midi, plus 0,1%, 6672 points.
Claire Lemaître de boursier.com, merci beaucoup Claire, à demain.
À demain.
La météo à présent, avec vous Anissa Haddadi, avec le soleil qui brille à l'ouest cet après-midi.
Oui, c'est là que la journée est la plus lumineuse. C'est vrai aujourd'hui sur le Cotentin, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, jusqu'au Languedoc-Roussillon. Mais attention, au bord de la Méditerranée, on a du Mistral et de la Tramontane. Ailleurs, sur le Nord, la région parisienne, la Bourgogne, le centre, l'Auvergne, on a un temps calme, mais les nuages viendront de temps en temps masquer le soleil. Et puis, on a toujours trois zones où là, les nuages s'accrochent avec un risque d'averse. Ce sont les Pyrénées, la façade est entre l'Alsace et les Alpes, et puis la Corse où le ciel est très gris avec toujours des averses de neige en montagne et des risques d'orage. Les températures, elles sont de saison aujourd'hui. On a 8 degrés à Lille, 9 à Paris, 10 à Lyon, 13 à Bordeaux et à Brest et jusqu'à 15 degrés pour Perpignan.
Merci Anissa, il est midi 20. Restez bien avec nous dans un instant. La colère et l'inquiétude des bouchers charcutiers qui manifestent en ce moment même devant l'Assemblée nationale. Ils sont inquiets à cause de l'explosion des prix de l'énergie. On sera avec l'un d'entre eux, Sébastien Rambaud, qui est boucher à Cholet et qui représente les bouchers du Maine-et-Loire. Merci d'être avec nous. À tout de suite.